Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, c'est notre prière, Seigneur. Ô Jésus, règne Seigneur à notre cœur. Sois sur le trône de notre cœur. Prends autorité. À toi la direction de nos vies. À toi, Seigneur, nos années, notre futur. À toi, Seigneur, nos heures, notre vie. Seigneur, à toi, ta volonté dans nos vies. Ta volonté est toujours le meilleur, car tu veux le meilleur pour les tiens. Ô Jésus, nous chantons ce que nous croyons, nous chantons ce que nous désirons être pour toi. Nous chantons, Seigneur, pour reconnaître et te dire que tu es notre roi pour l'éternité, car avec toi nous allons passer l'éternité, si du moins nous avons passé par la croix. Ô mon Dieu, nous nous réjouissons de te voir tel que tu es. Tu viens bientôt, tu viens nous chercher, mais prépare nos cœurs. Aide-nous à comprendre les vérités de l'éternité, à comprendre la marche que nous devons suivre pendant le temps qui reste, avant que tu sois là, avant que tu nous appelles à toi dans la gloire. Aide-nous, Seigneur, à grandir encore, à mieux te connaître et à mieux te communiquer à ce monde qui se perd afin d'échapper au jugement qui vient, d'échapper à la destruction éternelle. Tu veux sauver, tu ne veux pas détruire. Tu nous aimes et ton amour est immense pour nous. Nous ne comprenons pas un tel amour, un immense amour qui a fait que tu es descendu sur cette terre pour prendre un corps tel que le nôtre. Et mourir pour nous, pour prendre nos péchés sur la croix et ressusciter dans la gloire. Il y a espoir, espoir de résurrection pour nous aussi. Ô Jésus, merci. Nous sommes héritiers de ces choses à cause de ton amour pour nous. Nous avons besoin que tu nous instruises encore et que tu nous fasses mieux connaître toutes ces choses qui viennent bientôt. Parle-nous, Seigneur. Merci. Comme nous l'avons dit déjà plusieurs fois ici dans cette salle, il n'y a que deux chemins. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas vingt. Il n'y a que deux chemins. Ce chemin n'est pas le chemin d'une religion quelconque. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que deux chemins. Le chemin large et le chemin étroit. Ce principe, nous le voyons en toutes choses, dans la parole de Dieu, pour le temps et pour l'éternité. Pas seulement dans les dimensions du temps, mais aussi dans les dimensions éternelles. Il y a le chemin large et le chemin étroit. Il y a deux portes. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. La porte étroite et la porte large. Et cette porte, c'est Jésus. Il a dit, je suis la porte des brebis. Il n'y a que deux principes moraux. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a le mal, il y a le bien. Que deux principes moraux. Il y a la souillure et il y a la sainteté. Il y a le mensonge et il y a la vérité. Il y a l'incrédulité et il y a la foi. Il y a l'injustice ou la justice. Il y a la rébellion ou la soumission. Nous voyons ce principe en toutes choses. Ce sont que les hommes qui ont fait des multiples chemins, de multiples philosophies, de multiples doctrines, de multiples pensées, de multiples religions. Mais il n'y a que ces deux choses, que ces deux choses. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Un enfant peut comprendre cela. Il ne peut y avoir de mélange entre ces deux choses, entre ces deux principes. Il ne peut y avoir de mélange entre le bien et le mal. Il ne peut y avoir de position intermédiaire. C'est soit le bien, c'est soit le mal. C'est soit l'un, c'est soit l'autre. Soit la justice, soit l'injustice. Soit la souillure, soit la sainteté. Il n'y a pas de mélange entre ces deux choses. Soit l'un, soit l'autre. Il en est ainsi dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie. Nous récoltons ce que nous semons. Une bonne semence donnera un bon fruit. Une mauvaise semence donnera un mauvais fruit. Nous ne pouvons changer la nature des choses. Nous aurons toujours le résultat de ce que nous avons semé derrière nous. Soit le bien, soit le mal, et les conséquences qui en découlent. Chacun doit choisir librement. Chacun doit choisir volontairement le chemin qu'il veut suivre et en supporter les conséquences. Nous ne devons pas oublier que dans tous nos choix, toutes nos actions, il y a des conséquences sur nous-mêmes ou des conséquences sur notre entourage ou notre famille. Personne ne vit pour lui-même. Chacune de nos actions, de nos paroles porte à conséquence. Chacun de nous, nous avons une influence sur quelqu'un d'autre. Le refus de la grâce est un acte volontaire, comme la repentance est aussi un acte volontaire. Dieu nous offre la grâce, le salut, le pardon. Et nous, nous choisissons par une volonté propre, par une détermination propre, volontairement, librement, nous choisissons soit la grâce, soit le rejet de la grâce. La repentance est aussi un acte volontaire, comme le rejet de la grâce. La décision quant à notre futur éternel représente le résultat qui découle d'une libre volonté, du choix que nous faisons. La décision quant à notre futur éternel, je le répète, notre futur éternel représente le résultat qui découle d'un choix, de la volonté. Soit nous avons choisi la grâce et hérité du pardon et de la vie éternelle, soit nous avons choisi le rejet de la grâce, vivre comme nous voulons, faire ce que nous voulons et en porter les conséquences. Jésus nous donne un aperçu de la condition d'un homme qui représente beaucoup d'hommes ici-bas sur cette terre, rebelles, qui subit la conséquence de son péché. Et pour cela, j'aimerais lire avec vous dans Luc, au chapitre 16. Évangile de Luc, chapitre 16, versets 19 à 31. Nous lisons là. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. C'est Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle et qui nous parle de quelque chose qu'il est seul autorisé à parler puisqu'il connaît des choses que nous ne connaissons pas. Et là, il nous parle, il nous donne un exemple. Il y avait un homme riche. Je n'appellerai pas cette histoire parabole. Je parlerai de cette histoire comme étant quelque chose de vécu. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin parce qu'il est riche. Il est habillé de façon excellente. Excellente. Le meilleur tissu, le meilleur vêtement, la meilleure apparence extérieure. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Il a les moyens de s'offrir tout ce qu'on peut posséder sur cette terre. Le meilleur à sa table, dans la nourriture, le meilleur dans sa maison, richement décorée, avec des meubles de qualité, grandes et spacieuses, joyeuse et brillante vie, avec sa parcelle grande, avec des plantes de toutes sortes qui embellissent sa parcelle. Toute une quantité de jardiniers pour prendre soin de sa propriété, entouré d'un mur peut-être, ou d'une grille, avec de grandes portes à l'entrée, des portes qui s'ouvrent automatiquement quand on presse sur un bouton. Joyeuse et brillante vie. S'ils n'avaient pas cela à cette époque-là, ils avaient des hommes qui s'occupaient d'ouvrir et de fermer la porte. Peu importe. Nous rapportons cela à notre époque, à la façon de vivre de notre époque. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Il ne manque rien sur sa table. Rien. Il a des musiciens. Il a la musique qu'il désire. En plus de cela, il a beaucoup d'amis. Peut-être qu'il est entouré de très jolies femmes bien habillées. Peut-être qu'on aime venir le voir parce qu'il est instruit par-dessus tout. Non seulement il est instruit, mais il a de l'argent. Et il aime faire plaisir à ses amis. À ses amis. Il est influent dans la société à cause des biens qu'il possède. Influent dans la société à cause du pouvoir qu'il a à travers l'argent. Et cet argent, il le donne à ceux qui peuvent l'aider et le lui retourner d'une façon ou d'une autre par des faveurs de tout genre. Au verset 20, il est dit, « Un pauvre, couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à sa porte. » À son portail, est-il dit, à son portail. Un pauvre, couvert de serre. Pauvre, pourquoi? Voilà la question. Pauvre, peut-être qu'il n'a plus de famille, à cause de quelque catastrophe, de quelque maladie, de quelque guerre, je ne sais. Pauvre, parce que déjà, cet homme n'a pas une santé excellente. Et peut-être que personne ne veut lui donner du travail. Son allure n'est pas une allure d'un homme fort, probablement, je suppose. Et puis en plus de cela, il ne mange pas à sa faim. Et ce pauvre est venu se traîner, pour ainsi dire, là à la grille de la parcelle de cet homme riche, espérant pouvoir avoir quelque chose qui l'aidera à survivre. un pauvre couvert d'ulcères. Il a des plaies à travers tout le corps. Certainement parce qu'il ne mange pas ce qu'il faut. Il manque de toutes sortes de vitamines. Il est atteint de scorbut, par carence de vitamine C. De scorbut avec des plaies jusque dans la bouche et sur le corps. Peut-être des carences d'autres vitamines qu'il ne peut pas se procurer à travers la nourriture. Il est si faible dans son corps qu'il ne peut pas aller prendre de la nourriture dans les champs ou que sais-je, essayer de manger à sa faim, couvert d'ulcères. Son nom était Lazare, couché à son portail. L'homme riche n'aime pas voir ce mendiant, cet homme de rien. Il faut voir sa bouche quand il parle de Lazare. Est-ce qu'il est là? Jusqu'à quand? Et du reste, qu'est-ce qu'il sent mauvais? Qu'est-ce qu'il sent mauvais? Il n'a pas de considération pour son prochain. Couché à son portail, il aurait désiré se rassasier de ce qui tombe de la table du riche. La table du riche, parlez-moi de cela. Tous les jours, on jette de la nourriture dans la poubelle à la table du riche. Oh, il fait des repas avec des cuisiniers de classe, des repas plantureux, et puis il y a toujours des restes. Des restes, et on jette ça dans la poubelle. Combien de fois j'ai eu mal au cœur dans certains pays du monde lorsque vous allez au restaurant. Vous voyez des gens qui commandent beaucoup plus qu'ils ne peuvent manger. Et plus de la moitié de ce qu'ils ont commandé s'en va dans la poubelle. Croyez-moi, chacun aura rendu compte devant Dieu. Le gaspillage de la nourriture, je déteste ça. Et quand j'ai des gens qui viennent manger chez moi à la maison, et qu'ils se servent, et qu'ils laissent dans leur assiette plus de la moitié de ce qu'ils ont mangé pour aller dans la poubelle, je me dis, ce sont des gens mal éduqués. Ce sont des gens mal éduqués. J'ai toujours appris, depuis mon enfance, tu prends dans ton assiette ce que tu peux manger. Et quand tu as pris, tu termines ton assiette. Voilà. Tu ne dois pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais c'est étonnant de voir comme les gens qui ont suffisamment gaspillé la nourriture alors que le pauvre Lazare est à leur porte et jette ça aux poubelles. Combien de fois ici au Congo n'ai-je pas vu? On fait du foufou, une grosse boule de foufou. On n'arrive pas à tout manger. Allez voir derrière les cases, au village, le foufou qui est jeté là, dans les bananiers. Je l'ai vu combien de fois. Ça, c'est honteux. On jette la nourriture. Il aurait voulu désirer se rassasier de ce qui tombe de la table du riche. Mais le riche ne lui donne rien. Pas d'amour pour le prochain. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le riche, il aurait pu appeler un médecin. Il aurait pu lui donner des désinfectants. Il aurait pu lui donner ce qui était nécessaire à son corps pour que ses ulcères se ferment. Il aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Combien d'hommes et de femmes pêchent devant Dieu parce qu'ils ne font pas ce qu'ils devraient faire? Ce n'est pas seulement parce qu'ils font ce qu'il ne faut pas faire, mais c'est aussi parce qu'on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Égoïste. La Bible nous dit, le pauvre mourut. Oh, un beau matin, les serviteurs de cet homme riche sont venus lorsqu'il s'est levé vers 9h30, 10h du matin avec sa belle robe de chambre en soie. Il s'assoit à sa table garnie de toutes sortes de nourriture. Son serviteur vient. Patron, tu sais, le vieux Lazare à la porte, on l'a trouvé ce matin mort. Ah bon? C'est pas un mal, ça. Depuis le temps qu'il est là à notre porte, contacte les services de la voirie qu'on emmène son corps. Oh! Peut-être qu'on l'a emmené dans un chariot quelconque, dans une brouette, peut-être dans un de ces véhicules qui sert à évacuer les ordures. Il n'est pas digne du grand cimetière, lui, non. Un trou, quelque part, là où on enterre les chiens, peut-être. Quelle considération a-t-on pour cet homme? Mais que dit la Bible? Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alléluia. Qu'est-ce que ceci nous dit? Ceci nous dit que cet homme craint Dieu. Vous allez me dire, si on est pauvre, c'est parce que Dieu nous a abandonnés. Si on est pauvre, c'est parce qu'on vit dans le péché. Si on est pauvre, c'est parce qu'on est un paresseux, un gros paresseux. Si on est pauvre, c'est parce que. Si on est riche, on est prospère, c'est parce que Dieu bénit. Eh bien non, c'est pas toujours comme cela. Non! Regardez Job. Il était riche, il a tout perdu. Malade. Dans la cendre. Mais est-ce que Dieu l'avait abandonné? Dieu ne l'a pas abandonné parce que Job n'a pas abandonné Dieu. Job a servi Dieu dans la richesse, il a servi Dieu dans la pauvreté. Il n'a pas servi Dieu à cause des bénédictions reçues. Il y a des gens qui veulent vous faire croire que parce que vous n'êtes pas dans la prospérité, Dieu n'est pas avec vous. Menteur! Je sais que Dieu ne veut pas nous laisser dans la misère, c'est vrai, si nous avons cru en lui. Il nous donnera ce qui est nécessaire. Mais certains jours, certaines fois, il y a des épreuves qui viennent. Des épreuves qui viennent. N'abandonne pas. Si tu es dans la pauvreté, n'abandonne pas. Ne sais-tu pas que ton père est très riche? Il est très riche, mais peut-être qu'il veut t'enseigner quelque chose. La richesse n'est pas une preuve qu'on marche avec Dieu et que tout est bien avec Dieu. Non. Si tu es riche, c'est que tu as un ministère à faire à travers ta richesse. Un ministère à accomplir à travers ta richesse. Mais il y en a qui refusent d'accomplir ce ministère. Ils prétendent croire en Dieu. Mais ce sont des gros égoïstes. Le pauvre mourut. Pas de cérémonie pour lui. Pas de cortège pour lui. Non. Peut-être emballé dans une natte et jeté dans le trou est terminé. Mais les anges sont venus les chercher. Peu importe ce corps, une fois que la vie de ce corps physique est partie, ce n'est plus qu'un tas de poussière qui retourne à la poussière. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Où qu'on puisse te mettre, quelle importance? Quelle importance? Aucune. Qui vient te chercher? Voilà la question. Qui vient te chercher? Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le terme qui était utilisé par les Juifs pour parler de ce lieu de repos où vont ceux qui meurent dans la foi. Voilà. Dans le sein d'Abraham. Ensuite, la Bible nous dit, le riche aussi mourut. Ah, il n'y a pas de différence entre le pauvre et le riche devant la naissance et devant la mort. Quand ton heure est arrivée, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu vas mourir. Tu vas mourir. Ton argent ne peut te sauver. Oh, bien sûr, tu peux aller voir le docteur. Il peut-être, à cause de ses connaissances scientifiques, te donner quelques médicaments, t'opérer, te faire quoi encore? Mais il va dire, voilà, il n'en a que pour 3 mois. le cancer avance. Peut-être que si tu étais pauvre, tu serais mort après 3 semaines. Mais si le docteur, à cause de ses manipulations, excusez-moi le terme, mais manipulations médicales, a permis que tu puisses exister 3 mois de plus, mais c'est pas 3 mois de réjouissance, c'est 3 mois de souffrance. Le riche aussi mourut. Ton argent ne peut pas te faire vivre plus longtemps. Quand ton heure est arrivée, elle est arrivée. Et tu mourras comme le pauvre. Pas de différence. Le riche aussi mourut, est-il dit. Il mourut, est-il dit. Oh, pour lui, c'est différent. On a mis des grands rideaux noirs avec des bordures d'or, d'argent tout autour, selon une certaine tradition. On a acheté un beau cercueil, tout blanc peut-être, bien fait. Il est tout brillant. J'en ai vu de ces cercueils-là. Ouh là là, ils coûtent cher, hein? Et puis du reste, ils sont sophistiqués, ces cercueils. On peut les ouvrir comme ça, ou on peut les ouvrir comme ça, ou on peut les ouvrir à moitié comme ça. C'est pas vrai? Et tout capitonné à l'intérieur avec de la soie. Et bien rendu, bien. Oh, faut voir ça, c'est bien fait, une œuvre d'art. Et là, on met le mort, bien habillé, peut-être tout en blanc, beau costume blanc, avec une chemise. Il est là, avec les mains comme ça, ou comme ça. Mais il est mort! Quelle différence entre Lazare et lui devant la mort? C'est pas le cercueil qui fait la différence. Ce n'est qu'une boîte qui contient quelque chose qui va pourrir. L'importance n'est pas là. Mais les anges ne sont pas venus le chercher. Je me souviens une fois, lorsque j'étais au Gabon, un vieux chef qui était une grande fripouille, qui était attaché à un culte satanique, qui était un empoisonneur, un homme qui avait rejeté la grâce et le message de l'Évangile parce qu'il l'a entendu. Je l'ai vu dans son village au moment de sa mort. Il criait sur son lit. Il voyait des esprits mauvais venir pour le prendre. Et il disait à qui voulait l'entendre tous les empoisonnements qu'il avait faits. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'il avait empoisonné des gens de l'Église qui étaient tombés malades, en fait, c'est vrai. Mais l'Église avait prié, elles se sont relevées, tandis que tous les autres étaient morts. Il y avait le pasteur de l'Église. Son nom était Oguizi. Maintenant, il est devenu très vieux. Oguizi avait été bizarrement malade à la mort. L'Église a prié, il s'est relevé. Et là, on a entendu par cet homme agonisant sur son lit qui disait tout le mal qu'il avait fait aux autres. Les anges ne sont pas venus le chercher, c'était déjà trop tard. Le riche aussi mourut et fut enseveli. C'est ce que dit la Bible. Et fut enseveli. Voilà. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Ah! C'est Jésus qui raconte cette histoire, n'oubliez pas. Avant le sacrifice de la croix, tous ceux qui mouraient, ils allaient dans le séjour des morts. Mais dans le séjour des morts, il y avait deux parties. Et c'est ce que nous voyons dans cette histoire. Ceux qui mouraient dans la foi de celui qui allait venir pour ôter les péchés une fois pour toutes, qui avait été sous le bénéfice des sacrifices d'animaux dont on versait le sang pour couvrir le péché, et qui avait cru, et qui avait par la foi cru en celui qui viendrait, ils attendaient dans le sein d'Abraham le jour de la délivrance. Et de l'autre côté, entre ces deux parties du séjour des morts, un grand gouffre. De l'autre côté, ceux qui n'ont pas voulu croire, ceux qui ont refusé le message transmis à travers les prophètes et à travers les sacrifices, dans le tourment. Dans le tourment. Ils ne sont pas encore en enfer, pour utiliser ce mot, quoique ce mot ne soit pas utilisé dans la Bible. C'est ce que j'avais dit déjà, une des dernières fois, et quelqu'un est venu avec une Bible en me disant, mais regardez, il y a le mot enfer quand même dans la Bible. Bon, il y a beaucoup de traductions de la Bible aujourd'hui. Et certains ont jugé bon d'y mettre le mot enfer, mais ce mot enfer, dans le texte original, n'existe pas. Il est parlé de punition éternelle, il est parlé du feu qui ne s'éteint point, et toutes sortes d'autres expressions, de la gêne. Toujours est-il que dans le séjour des morts, ceux qui sont morts, loin de Dieu, comme ce riche, loin de Dieu, ils attendent le jugement. Il y aura un jugement. Comme il y a un degré dans la récompense, il y aura un degré dans la punition. C'est pourquoi il est parlé du jugement. Dieu est juste, que ce soit dans la récompense ou dans la condamnation. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit de loin. Mais cet homme riche, il n'est pas dans la punition éternelle, dans le séjour des morts négatif, parce qu'il est riche. Oh non, non. Mais la question est, ô riche, comment as-tu amassé ta richesse? Qu'as-tu fait et que fais-tu avec ta richesse? À cause de son indifférence, on pourrait dire, à cause de votre indifférence, à vous riches, vis-à-vis de celui qui est couché à votre porte, qui souffre et qui est dans un grand besoin, ces riches, dans le temps passé jusqu'à aujourd'hui, pêchent par égoïsme, pêchent par orgueil. Ils se croient plus excellents que les autres à cause de leur richesse. Ils pêchent par méchanceté. Ils pêchent par dureté de cœur. Ils pêchent par refus de faire le bien quand ils peuvent faire le bien. Ils pêchent par égocentrisme. Ils pêchent par mépris pour les autres, leurs semblables. Ils pêchent, non pas seulement parce qu'ils ont tant de concubines et de belles femmes qui leur tournent autour pour avoir leur argent, ou parce qu'ils ont toutes sortes de politiciens qui sont autour d'eux pour les aider afin d'obtenir des voix lorsqu'on va voter. Sans parler de cela, il y a assez de péchés, de péché, de manquement. Ils pêchent parce que ils ne font pas ce qu'ils devaient faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches. Dieu ne condamne pas les riches. Et s'il y a des enfants de Dieu riches, gloire à Dieu, qu'ils soient riches et qu'ils prospèrent, mais qu'ils fassent participer leur prospérité aux Lazares qui sont à leur porte. Qu'ils fassent participer leur prospérité à l'œuvre de Dieu pour que cet évangile soit répandu encore plus puissamment à travers le pays et au-delà du pays. Ta richesse, elle passera. Mieux vaut la dépenser alors que tu es en vie que de laisser ta richesse à d'autres après toi qui vivent pour Satan et qui vont dilapider ce que tu as amassé, peut-être honnêtement. Oui, le riche mort. Jacques 5, 3 nous dit, « Votre or et votre argent sont souillés. Elle leur rouille, s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. » C'est comme un reproche, là. Vous étiez tellement affairé à amasser des trésors dans les derniers jours, au lieu de vous consacrer à répandre l'Évangile, au lieu de vous consacrer à faire quelque chose pour les pauvres, pas seulement les pauvres physiquement, mais les pauvres spirituellement et moralement, des gens qui vivent dans le péché et qui sont ignorants des choses éternelles et des valeurs éternelles. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Jésus dit bien que dans le séjour des morts, où se trouve l'homme riche, le méchant souffre terriblement. Il souffre pour plusieurs raisons. Le remords, le regret. Vous savez, le remords est une chose terrible. C'est quelque chose qui vous ronge. Si j'avais seulement écouté. Trop tard. Ce mot « trop tard » est un mot terrible à ce moment-là. Il n'y a plus de rachat possible. Il n'y a plus de changement de route possible. Il y avait deux routes. Tu as choisi la mauvaise, tu en supportes les conséquences. Il est entièrement conscient, cet homme qui est mort dans son corps physique, mais qui est là, avec son esprit, son âme, là, dans le séjour des morts tourmentés. Il est conscient, il a sa mémoire intacte. Il se souvient qu'il a des frères à la maison. Et il dit à Abraham, « Envoie Lazare dans la maison de mon père, afin que mes frères ne viennent pas dans cet endroit de tourment où je suis maintenant. » Il dit cela pourquoi? Parce qu'il sait maintenant que ses frères ne vivent pas une vie compatible à être dans le sein d'Abraham. Ne vivent pas une vie qui soit à la gloire de Dieu, qu'ils sont sur un mauvais chemin. Il le sait. Envoie Lazare dans la maison de mon père. Abraham lui dit non. Quand bien même quelqu'un viendrait des morts pour leur parler, ils ne croiront point. Ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Ils ont la parole de Dieu, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et du reste, il y en a un qui est venu d'entre les morts, Jésus-Christ. Qui croit en Jésus-Christ, qui est pourtant venu d'entre les morts et qui parle ici? Soyons sérieux, s'il vous plaît. Il a sa mémoire intacte et éprouve des désirs. Il raisonne, languit pour un soulagement de sa peine. Dit à Lazare qu'il vienne et trempe son doigt dans l'eau et me rafraîchir quelque peu. Je souffre dans cette flamme. Quand il est parlé de flamme, je ne crois pas qu'il s'agit du feu qu'on met sous la marmite pour faire cuire la nourriture. C'est autre chose. C'est autre chose de pire, si je puis dire. Mais il ne peut être aidé, ni réconforté, ni soulagé. Abraham lui dit, il est impossible que vous de là-bas vous veniez ici, que nous allions aussi là-bas, à cause du couvre qui nous sépare. Jésus parlait de cette histoire avant de mourir à la croix. Dans l'ancienne alliance, voilà la place où étaient les hommes qui mouraient. Et il y avait deux parties dans le séjour des morts. Mais quand Jésus est mort sur la croix, la Bible nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre pour prêcher aux esprits qui étaient en prison, afin de les libérer. Et il nous est dit que des tombes furent ouvertes qu'on vit des hommes sortir, sortir et rentrer où? Dans le paradis. C'est là où Jésus, depuis qu'il est mort, que ceux qui meurent dans la foi attendent le jour de la résurrection. Tandis que le séjour des morts est réservé pour les rebelles jusqu'à aujourd'hui. Jésus est la parole de Dieu, la parole qui a été faite chair, la parole de vérité. Il ne pourrait exprimer de façon si, si claire, si expressive, avec tant de détails, si cela n'était pas exact et réel. Cette punition des méchants, combien de temps va-t-elle durer? Matthieu 25, 46, il est dit, « Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, éternel, éternel, des deux côtés. Ce sont les paroles de Jésus. Il parle de l'éternité pour les uns comme pour les autres. Pas de différence. Si je crois que ce qui me plaît, ce que ma culture m'a inculqué depuis mon enfance, je ne suis pas un disciple de Jésus, mais je suis un disciple de moi-même. Cette doctrine de la punition éternelle n'est pas une invention d'homme, mais elle fait partie des enseignements de la parole de Dieu et de Jésus lui-même. Jean 5, 28 à 29, il est dit, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. » Ceux qui auront fait le bien, toujours ces deux choses, le bien et le mal. Ceux qui auront fait le bien, choisis le bien. Choisis le bien, l'honorable, le juste, le vrai, le pur. Ceux qui auront fait le bien seront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal, pour la résurrection aussi, la résurrection et le jugement. Cette place de punition et de jugement éternel, de séparation d'avec Dieu et d'union avec Satan n'est pas une chose enviable du tout. Matthieu 13, 40 à 42. « Oh, je prêche des choses aujourd'hui qui ne vous faites pas taper des mains. » C'est pas vrai? Personne ne tape des mains. Personne ne réagit. Peu importe, ce que je vous prêche est dans le livre. Et tout le monde doit être conscient de ces choses-là. Matthieu 13, 40 à 42. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Autrement dit, si aujourd'hui on me jette dans une fournaise, je vais mourir tout de suite. Tandis que là, non. Des pleurs et des grincements de dents, dans cette fournaise, où j'existerai. Oh non, pas moi. J'ai choisi. Amen. Christ dira à ceux qui n'ont pas accepté son amour et sa grâce et qui n'ont pas cru en lui, mais qui ont cru au mensonge, il leur dira dans Matthieu 25, 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » Le feu éternel n'a pas été préparé pour toi, il a été préparé pour le diable et ses anges. Mais si tu sers le diable, où puis-je te mettre? Il n'y a que deux choses, le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la sainteté et le péché. La Bible parle de ce lieu largement, de cet endroit, dans Matthieu 13, versets 42 et verset 50. Il nous est parlé là, une fournaise de feu, lieu de pleurs, et de grincement dedans. Dans Matthieu 22, 13, il en est parlé comme étant les ténèbres du dehors de la maison de Dieu. Dieu est lumière. Dans sa maison, c'est la lumière. Mais ceux-là comme ils ont refusé la grâce, comme ils n'ont pas accepté le salut par grâce, ni la repentance, donc ils ne sont pas avec Dieu puisqu'ils l'ont refusé. Ils sont dans les ténèbres du dehors, en dehors de la maison de Dieu. Dans Marc 9, 48, il en est parlé comme étant le lieu où leur ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Dans Luc 16, 28, il en a encore parlé, d'un lieu comme étant un lieu de tourment. Voilà où nous mène le péché, la rébellion et le refus de la grâce qui nous est offerte gratuitement. Ces choses nous brisent le cœur et nous font pleurer à cause de ceux qui rejettent Christ. Ils ne se rendent pas compte ce qu'il y a devant eux. Ils sont aveuglés par Satan. On n'aime pas parler de ce lieu-là. On prêche que rarement sur ce sujet, mais il n'est pas moins biblique que le salut par grâce et par la foi et le pardon que Dieu veut nous offrir. Il n'est pas moins biblique. Mais les hommes jugent Dieu. Les hommes n'acceptent pas cette dimension de l'éternité. Ils n'acceptent pas. Dans le monde, beaucoup aujourd'hui considèrent cela comme une punition disproportionnée. Beaucoup de gens considèrent que c'est d'être civilisé et humain que de nier l'existence d'un tel lieu de tourment éternel. Et ils disent, regardez la vie d'un homme devant l'éternité. La vie d'un homme, ce n'est que quelques secondes devant l'éternité. Et même, on ne peut apprécier vis-à-vis de l'éternité le nombre d'années de la vie d'un homme. Et pendant cette vie de l'homme, il commet le péché. Voilà. Et puis, à cause de cela, il va être jeté pour l'éternité dans une situation terrible, épouvantable. Non, c'est pas possible. Et quand nous raisonnons comme cela, nous montrons notre arrogance. Nous, créatures mortelles, lorsque nous disons que ce que nous pensons est plus moral et juste que ce que le Créateur, le Dieu Saint, a réservé à ceux qui le rejettent. Dieu a tout fait. Il vous offre tout et vous refusez. Il n'y a que des choses. Il y a la vie éternelle au ciel, dans la gloire, et il y a les ténèbres du dehors réservées pour Satan et ses anges. Il n'y a que deux choses. Nous n'aimons pas penser que des gens méritent la punition éternelle. Car s'ils le méritent, nous aussi nous le méritons. Quel est celui qui ne le mérite pas en passant par moi-même? Mais nous avons été sauvés par grâce, parce que nous avons cru en celui qui nous a offert gratuitement. Et là, c'est un choix personnel avec une décision personnelle en engageant sa propre volonté. En conséquence de quoi, nous avons la vie éternelle ou alors, en le refusant, nous avons la perdition éternelle. Mais si nous comprenions la nature de Dieu en comparaison d'avec la nôtre, nous serions choqués que ces gens soient admis au ciel, impurs, souillés, tels que chaque individu sur la terre, et en plus qui refuse la grâce qui lui est offerte et le salut. Notre souillure et rébellion nous ôte tout droit de dire que l'infinie sainteté du Dieu puissant n'aurait pas le droit de nous jeter dans les ténèbres du dehors. Qui sommes-nous pour juger Dieu? En ce faisant, nous rabaissons le niveau élevé de la sainteté de Dieu et de la rédemption par son sacrifice. Vous le rejetez, il vous rejette. Vous l'acceptez, il vous accepte. Mais où va-t-il vous mettre alors que vous l'avez rejeté? Quel sera le lieu de votre résidence vous qui le rejetez, puisque tout homme, depuis sa naissance, ne cessera jamais d'exister. À quel endroit de l'univers vous mettra-t-il alors? Puisque vous avez rejeté Dieu et sa parole, où va-t-il vous mettre? Il n'y a qu'une place pour une telle personne. Le lieu où sera condamné pour l'éternité, celui que vous avez écouté et suivi, le père du mensonge, pendant le temps que vous étiez sur cette terre, en étant averti. Car tel a été votre choix. Si nous disons qu'en définitive, nous serons tous sauvés, que Dieu ne peut jeter, un Dieu d'amour ne peut jeter ses créatures dans une punition éternelle, dans un tel endroit pour toujours. Si nous disons que tous les hommes seront pour finir sauvés, nous amoindrissons le prix payé pour le salut de l'humanité. Si le rebelle peut être sauvé sans repentance, le sacrifice de Christ, la résurrection de Christ sont alors inutiles. Inutiles. Son œuvre sur la croix est vaine. Et notre louange, notre adoration, nos cantiques que nous avons chantés avec tant de joie tout à l'heure n'ont plus de valeur ni de signification. L'œuvre de salut de Christ trouve sa pleine signification dramatique pour sauver les hommes, justement à cause de ce que le Dieu très saint ne peut voir le péché, et que tout ce qui est péché sera détruit par le feu. Ainsi en sera-t-il de la terre elle-même. C'est ce que nous dit Jacques dans son épître. Rien de cette terre ne restera dans l'éternité. Les hommes ne sont donc pas perdus par leur faute et leur péché, mais par leur refus de la grâce. Jean 3, 18, il est écrit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On est donc sauvé par la foi et perdu par l'incrédulité, par leur refus d'être inscrit dans le livre de vie. Car celui qui repousse la grâce demeure sur le terrain de la loi, et la loi est dure. Ce terrain ne peut être dans ce terrain, sur ce terrain de la loi, on ne peut être jugé que sur la base des œuvres. Et la loi est rigoureuse. Il recevra donc, cet homme qui a rejeté la grâce, il sera jugé d'après la loi et il recevra strictement que ce qu'il aura mérité. Et la loi le condamnera sans merci et sans grâce. Il y a donc une importance capitale d'être inscrit dans le livre de vie par grâce et par la foi. Baissons la tête. Inscrit dans le livre de vie, par grâce et par la foi, ô Jésus. Jésus, tu nous avertis. Tu nous avertis, Seigneur, et certainement ce que j'ai prêché aujourd'hui, ce que j'ai pu parler ici dans cette salle, n'est pas quelque chose qui enthousiasme qui que ce soit. N'est pas quelque chose qui est populaire, n'est pas quelque chose qui fait plaisir. Mais comme tu parles du salut par grâce et par la foi offert gratuitement à quiconque croit, tu parles aussi, Seigneur, de la punition pour celui qui refuse la grâce et qui ne veut pas croire. Ô mon Dieu, donne-nous de comprendre qu'il n'y a que deux possibilités, qu'il n'y a que deux chemins, et que toi, Seigneur, tu es le chemin de la vie. Ô Dieu, donne-nous d'accepter et de recevoir la vie que tu offres ce matin encore. Inscris dans le livre de vie, ton nom y est-il? Dieu ne s'inquiète pas de ta religion. Dieu ne s'inquiète pas que tu sois membre de l'Église de la Borne. Dieu s'inquiète de ta vie. Vie éternelle, ne te confie pas dans ces richesses éphémères de la terre. Ne te confie pas dans ton intelligence et ta sagesse et ta connaissance et dans ton intellect. Beaucoup de choses, tu ne peux les saisir ni les comprendre, même de celles qui ont été annoncées aujourd'hui, d'après la parole de Dieu. Tout ce que Dieu te demande de venir à lui, c'est de venir à lui tel un petit enfant. Et alors, il t'éclairera. Dieu est saint. Ton nom est-il dans le livre de vie? S'il n'est pas, lève-toi maintenant. Lève-toi là où tu es. Je veux saisir la grâce. Je veux saisir le salut. Je suis religieux. Je suis peut-être membre de l'Église de la Borne. Mais j'essaye de mélanger le sale et le propre. De mélanger la vérité et le mensonge. Je fais des compromis. Seigneur, pardonne-moi. Lève-toi maintenant, où que tu sois. C'est le chemin du salut. C'est la porte étroite. Le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse sur les balcons. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Oh, mon Dieu. Y a-t-il personne ici sur ma gauche? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, mon Dieu, réconcilié avec Dieu. Il n'y a que deux possibilités. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Tu ne peux acquérir ton salut par tes prières, par ton argent, que tu sois riche ou pas. Ton argent, il est rouillé, nous dit Jacques. Tu ne peux acquérir la vie éternelle par ces choses qui ne sont que poussière. C'est une décision aujourd'hui que Dieu te demande de faire. Une décision. Seigneur, je veux la vie. Je veux mon nom dans le livre de vie. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Donne-moi la force de ne plus pécher et de marcher avec toi en nouveauté de vie. Seigneur, tu vois ces hommes, ces femmes à travers cette salle. Permet que ce ne soit pas simplement une habitude de se lever à chaque réunion, à chaque appel, mais que ce soit une décision définitive pour marcher dans la vérité, dans la lumière, marcher avec toi, Seigneur, avoir son nom inscrit dans le livre de vie, de recevoir par grâce le salut offert gratuitement. Qui va rejeter une telle invitation? Qui va rejeter un tel appel? Il vous appelle aujourd'hui. Prends-moi, Seigneur, mets mon nom dans ton livre. Je veux marcher avec toi. Prends ma main, je ne veux pas te lâcher. Et si je tombe, relève-moi. Que je sois chaque jour plus près de toi, chaque jour plus vrai, plus saint, plus juste. Oh Jésus, je te donne ma vie. Reprenez vos places. Oh Jésus, tu nous as parlé, Seigneur. Merci. Sanctifie maintenant ces dîmes et ces offrandes que tes enfants t'apportent maintenant. Et que cet argent, Seigneur, qui est souvent le fruit de sacrifices, serve à ta gloire, à l'annonce de cet évangile. Seigneur, mon Dieu, permets que rien ne manque à ceux qui donnent et qui donnent parce qu'ils t'aiment. Ils veulent participer au salut des autres pendant ce court temps que nous sommes sur cette terre. Aide-nous, Seigneur, pour pouvoir aider les pauvres Lazare couchés à notre porte. Les Lazare qui croient en toi et qui n'ont rien eu de ce monde, mais aussi des Lazare qui ne te connaissent pas, Seigneur, et qui croient qu'en bonne santé physique, sont malades spirituellement. Ô Jésus, que nous puissions leur apporter le pain de vie. Merci.
Nous signalons que le panier va circuler deux fois. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix pour moi, pour que je sois libéré. Oh, quel amour et quel sacrifice! Le Fils de Dieu s'est donné pour moi, il paye et pour moi il meurt. En lui je vis.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseigne-moi.org. www.association-enseigne-moi.org.